Prologue. Comment je suis passé de cancre au fond de la classe à vice-champion du monde de lecture rapide. Longtemps, je me suis cru bête. Je n'ai pas peur de ces mots. Cette certitude s'est ancrée dans l'enfance et m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Ma mère était femme au foyer et mon père maçon. Il est arrivé en France dans les années 1970. À l'époque, le pays cherchait des ouvriers. Il a quitté le Maghreb pour gagner son pain. Grâce à ce travail, il pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Il envoyait régulièrement de l'argent à ma mère, tandis qu'il ne se voyait que quelques jours par an. Ma mère finit par gagner l'Hexagone en 1986, avec mes sœurs. 2 ans plus tard, je vois le jour à Saint-Ouen, près de Paris. Je suis le seul garçon de la fratrie et l'avant-dernier de 7 enfants. La France représente pour mes parents l'occasion d'améliorer leurs conditions de vie et d'offrir à leurs enfants une chance de réussir. Analphabètes, ils ne peuvent pas nous aider lorsque nous faisons nos devoirs, mais notre réussite scolaire les préoccupe plus que tout. Pour autant, mes premiers pas à l'école relèvent de la catastrophe. Et c'est sans dire que nous vivons dans une zone socialement défavorisée, où l'excellence n'existe pas. Nous sommes en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Très jeune, je suis déjà convaincu de ne pas être fait pour les études. Je suis en retard sur tout. L'écriture, la lecture, le calcul. Je redouble le CP et passe mes mercredis après-midi chez l'orthophoniste à apprendre à articuler. Peu à peu, je rattrape mon retard. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Je ne peux pas faire mieux, pas aller plus vite. Je suis contraint d'avancer à mon rythme, et ce rythme n'est visiblement pas le bon. Je me souviens de la lassitude des enseignants à mon égard. Je me sens plus nul que les nuls. Et les exposés me rendent malade. Dos au tableau, face à la classe, je suis la cible de moquerie. Et la boule que je sens dans mon ventre me donne envie de partir en courant. Me sentir différent et moins méritant que la plupart de mes camarades détruit ma confiance en moi. Je n'ai que 6 ans. Pas fait pour l'école. Un jour, mes parents sont convoqués par le directeur de l'école primaire. J'imagine un rendez-vous de routine pour faire le point sur mes difficultés. Mais j'ai tout faux. Je suis à peine entré dans le bureau du directeur que je remarque son regard noir. Il me demande de sortir. Il a quelque chose d'important à dire à mes parents. La sentence tombe. En classe de CE2, ce sera SECPA pour moi. C'est-à-dire une classe de perfectionnement, une orientation pour mon bien et celui du reste de la classe. Je souffre de ce choix qui ne m'appartient pas. Suis-je si différent des autres enfants? Qu'ai-je mal fait pour ne pas mériter ma place et ne pas suivre une scolarité classique? Mes efforts sont invisibles, mais mes parents, eux, refusent que j'emprunte cette direction. Car malheureusement, les classes de perfectionnement ont mauvaise réputation. Ils ont peur pour moi. Je ne vais pas en SECPA. Je m'obstine à rester en filière générale. Et on s'obstine à me prédire l'échec. Alors, l'échec, je l'attends sagement. De toute façon, j'ai bien conscience que l'école ne me correspond pas, et que je ne lui correspond pas non plus. Où trouver l'énergie d'essayer, de progresser, face à des profs qui n'y croient pas pour moi, alors qu'ils représentent tout, l'intelligence et la réussite? Je me sens minuscule et condamné. J'appartiens au clan des cancres, celui des « pas faits pour l'école ». Et puis, je n'ai aucun rêve. Je ne peux pas me le permettre. Je grandis avec ça. Parfois, je lis de la tristesse sur le visage de mes parents, dont émane par-dessus tout un sentiment d'impuissance. Ils m'encouragent à me concentrer sur mes études. Ils ne savent que faire d'autre, parce qu'ils font déjà tout. J'incarne pour eux, qui sont analphabètes, un espoir. Celui de vivre et de grandir en France, de mener une vie plus belle et plus moderne, d'accéder à la culture. Je comprends tout ça malgré mon jeune âge. J'ai envie que mes parents me regardent avec fierté. Je veux réussir et leur offrir cette réussite. Je veux qu'ils pensent alors que leur émigration n'a pas été vaine. Mais les années défilent sans que je puisse leur prouver le contraire. Je ne change pas, ne m'améliore pas. J'agis en me conformant à l'étiquette que l'on m'a accolée. Madame F. En classe de CM1, j'ai une maîtresse atypique, Madame F. Petite, les cheveux blonds, des lunettes qui lui confèrent un air strict. Je ne sais pas si nous pouvons appeler cela le destin, mais Madame F habite près de chez moi. Très vite, elle se sent investie d'une mission, celle de me hisser au rang des meilleurs et de me permettre d'atteindre des résultats scolaires inespérés. Elle m'ordonne de rentrer chez moi quand elle m'aperçoit dehors en train de jouer avec les enfants du quartier, ajoutant un cadre à celui imposé par mes parents, celui du couvre-feu à 19h. Différente des instituteurs précédents, elle m'accorde de l'attention. Son implication ne me laisse pas indifférent. Alors, je me mets au travail et découvre même que j'aime ça. Madame F n'hésite pas à récompenser mes efforts et elle me gratifie d'excellentes notes en dépit de mes fautes d'orthographe. Elle me montre que j'ai des capacités, les mêmes que n'importe quel élève. Pour me surprendre et la surprendre davantage encore, je m'en souviens très bien. Je me décide un jour à apprendre la poésie qu'elle nous a distribuée la veille sur polycopier. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable en classe. Je suis le seul à lever le doigt lorsque Madame F cherche un volontaire pour monter sur l'estrade et réciter son devoir. Pourtant, je suis toujours aussi timide et apeuré et je baragouine plus que je ne m'exprime. Mais tout à coup, j'ai cette envie de réussir, pour elle, pour moi, pour mes parents. Cette poésie marque, il me semble, le début de ma transformation. Je deviens un élève sérieux et fier de l'être. Merci, Madame F. L'année de mes 12 ans. Au collège, beaucoup de mes amis de la cité commencent à flirter avec la délinquance. Vol à l'arraché, absentéisme à l'école, agression, deal, violence. Je continue de les fréquenter tout en m'efforçant de ne pas tomber dans le même piège. Ce qui me relie encore à mes amis, c'est un rêve. Parce que j'ai enfin un rêve, et nous sommes plusieurs à le partager. Nous voulons devenir des stars du football. Nous prenons un plaisir fou à taper dans le ballon. Je n'oublie pas l'école, mais j'aime être dehors et courir. Seulement, une question s'impose. Après quoi je cours exactement? Je suis conscient que mon rêve n'est qu'un jeu, et une question m'envahit. Que vais-je faire plus tard? Je manque de repères. Je ne trouve personne à qui en parler. Vers qui me tourner? Comment savoir ce qui nous plaît au fond? Mais je reporte ces interrogations, sans doute parce qu'elles sont prématurées et trop lourdes à porter. Et puis soudain, un événement fait basculer mon existence. J'ai 12 ans et je me retrouve hospitalisé pendant 3 semaines. Mes symptômes sont sans équivoque. Une soif intense qui me donne l'impression permanente de traverser un désert. Une fatigue grandissante et une somnolence constante. Une pâleur visible à des kilomètres, et j'en passe. Le diagnostic tombe, je souffre de diabète. Quel choc! Je dois réapprendre à manger, m'habituer aux injections, anticiper les malaises et comprendre les corrections des hypoglycémies. Je sors de l'hôpital avec la peur de ne pas y arriver. Gérer une maladie, si jeune, c'est un drame. Au départ, cette nouvelle organisation me déstabilise. Je ne reconnais plus ma vie. Tout change. D'ailleurs, cet événement m'éloigne définitivement des garçons de mon quartier. Je dois rester chez moi et apprendre à vivre avec de nouvelles contraintes. Mais je trouve dans cette épreuve une manière d'affirmer mon sens des responsabilités et je passe davantage de temps à travailler. Quelques années plus tard, j'obtiens mon baccalauréat. Je suis ravi. Mais paradoxalement, je ne sais toujours pas quoi faire de ma peau. Et ce flou me rend malheureux. C'en est presque douloureux. J'ai conscience que le bac n'est pas une consécration et qu'il n'est qu'une étape parmi d'autres. Finalement, je choisis de suivre la voie de ma sœur qui entame alors sa 2e année de médecine. D'autant que ma maladie m'a fait prendre conscience de la valeur de la santé. La réussite et la motivation de mon aîné m'inspirent. Je m'inscris, prêt à partir au combat. Dès les premiers jours, la cadence est soutenue, il faut s'accrocher. Le rythme de travail effréné me rend irritable et stressé. L'ambiance est pesante, les étudiants renfermés. Sur les bancs de l'amphithéâtre, nous sommes des centaines. Et pourtant, nous nous battons seuls. La pression interdit toute empathie. Chacun pour soi. La réussite, coûte que coûte. À ce moment-là, je repense souvent au gamin que j'ai été, ne sachant si je l'ai transcendé ou s'il sommeille toujours en moi. Vais-je baisser les bras ou apprendre ma poésie?